Autre radio, autre culture, bonjour. En cette belle journée ensoleillée, nous recevons Alain Le Kim qui, telle une hirondelle, nous annonce bientôt le printemps. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors Alain, où tu en es avec ton label Soundstrips ?
Eh bien, c'est une excellente question. J'en suis que ça avance bien. J'ai attendu un certain temps avant d'en reparler beaucoup. Parce que je voulais avoir suffisamment de films prêts à présenter comme une sorte de vraie, véritable collection. Donc il m'a fallu quelques années pour en accumuler plusieurs. Et maintenant, je pense que j'ai atteint un stade où on peut vraiment parler d'une vraie collection, non pas d'un projet de collection. Parce que lorsque j'avais un film ou même deux, parler de collection, ça paraissait un petit peu ambitieux. Maintenant, j'ai suffisamment de films pour en parler et j'en ai d'autres en cours soit de production, soit qui sont prévus incessamment sous peu. Et donc, je pense qu'on peut commencer à parler d'une véritable collection.
Alors, nous avions reçu il y a à peu près 3 ans, il me semble, Alain, pour le début de sa collection, dont il nous avait présenté les 2 premiers volumes, qui parlaient de, si je me souviens bien, d'ingénieur du son et d'un constructeur.
Exact, oui, les 2 premiers films que j'ai faits ont été faits en France, ici. Le premier que j'ai fait, c'était avec un constructeur qui s'appelle Jean-Jacques Baquet, qui a une entreprise qui s'appelle Klinger Favre et qui fabrique des systèmes de reproduction sonore de très très haute qualité. Et il a une particularité d'être tout seul et d'être un chercheur très pragmatique qui n'hésite pas à modifier ses produits au dernier moment s'il estime qu'il a trouvé quelque chose de mieux, même quitte à retarder un petit peu la livraison. Il prévient son client en disant « mais là, j'ai trouvé un composant qui est meilleur et donc je l'incorpore dans votre version ». Donc je trouve ça assez admirable. Et l'autre film, c'était un ingénieur du son très connu qui travaille beaucoup pour les stars, qui s'appelle Yves Jaget. Et donc Yves a été très sympa de me laisser le suivre pendant à peu près 1 an et demi. Donc dès qu'il avait un peu de temps, il m'accordait 1 heure, 2 heures d'interview. J'ai pu le suivre aussi dans des concerts qu'il a fait au Zénith. Et donc c'était passionnant de voir comment il travaillait, notamment au Zénith par exemple, où on est arrivé à 6 heures du matin pour le voir commencer à caler les haut-parleurs pour le concert du soir. Et donc on a vu tout le travail qui s'accomplit du matin juste avant le spectacle, et je comprends pourquoi ces personnes sont totalement épuisées à la fin du spectacle.
Quelques mois après, tu t'es tourné délibérément vers les États-Unis pour faire d'autres DVD, et tu finalement as mis de côté un peu l'Europe pour mettre en avant soit des constructeurs de micros ou des ingénieurs du son américains. Alors pourquoi ?
Ben, c'est un petit peu un hasard en fait. Il s'avère que dans ce métier du son professionnel, qui est pour l'instant celui sur lequel je travaille, la plupart des produits sont... Une grande partie des produits sont américains, notamment les compresseurs, les amplificateurs de micro, tout ce qui est appareils analogiques, évidemment les appareils, les systèmes informatiques comme Pro Tools, etc. La plupart sont américains et j'ai eu la chance de rencontrer une ou deux personnes lors d'un AES à Paris. L'AES étant l'Audio Engineering Society, et il y a une sorte d'exposition de fabricants, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens à Paris, et je leur ai dit que j'aimerais bien faire un film, et ça les a intéressés, donc je suis parti à Los Angeles pour en tourner 2. C'était les 2 premiers que j'ai fait là-bas. C'était sur les appareils Manley, donc, dont la patronne est Ivana Manley. Je me suis installé chez elle pendant 10 jours pour la suivre en tant que patronne d'une entreprise quand même d'une cinquantaine de personnes, donc qui produit pas mal de produits. C'était passionnant. Et puis, une fois que j'ai fini ce film, j'en ai fait un autre sur Little Labs. Alors là, c'est le contraire de Manley, parce qu'il est tout seul. Et alors lui, il est installé en plein milieu d'Hollywood, dans les collines, dans une très jolie maison, et il travaille de sa maison, de chez lui. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de la façon dont il travaille. Quand j'étais là-bas, il me dit, tu vois, quand j'ouvre mes fenêtres l'été, j'entends les répétitions du Hollywood Bowl qui se trouve juste en face. Et donc, si les répétitions me plaisent, je me dis, bah, tiens, je vais aller au concert, je vais aller voir ce qu'ils ont fait. C'est un petit peu la façon dont vit Jonathan Little, qui est un concepteur de produits très originaux. Il a voulu se démarquer des autres et il a fait ce qu'on appelle des petites boîtes. D'ailleurs, c'est très habilement appelé Little Labs. Et tous les produits sont petits. Et il a fait des produits qu'aucun autre fabricant ne faisait, tout simplement en écoutant les conseils. Eh bien, ou les demandes d'ingénieurs du son d'Hollywood, enfin de Los Angeles, qu'il connaît très bien pour avoir été directeur technique de très gros studios à Los Angeles.
On a l'impression, en regardant tes DVD, qu'il y a toujours l'œil du photographe, et je dirais même plus de l'ethnologue. Il y a quelque chose qui est frappant chez toi, c'est lorsqu'on on regarde ces DVD, on a l'impression franchement d'une analyse d'un personnage, mais une analyse sociale, et comme si c'était un membre d'une tribu.
Oui, c'est pas mal perçu. C'est pas complètement délibéré, mais effectivement, c'est l'orientation que j'ai prise. En fait, ça découle de deux choses. D'abord, je m'installe chez les gens. Donc j'arrive chez eux et je m'invite en fait chez eux, je leur dis voilà, si je tourne un film, ma façon de procéder c'est d'habiter chez vous. Donc déjà, au lieu de voir uniquement une facette de la personne, qui est celle de constructeur ou etc., je le vois vivre. Donc on se voit au petit déjeuner, on discute, au bout d'un moment on a faim, on s'arrête pour aller déjeuner, enfin on vit avec eux. Alors on s'entend avec eux ou pas, mais la plupart du temps on s'entend, parce que c'est tous des gens formidables. Je choisis dans mes films, jusqu'à présent j'ai eu la chance de n'avoir que des gens de très très haut niveau. Bon, ça c'est un choix délibéré, mais aussi avec lesquels j'ai pu très facilement m'entendre, parce qu'ils ont des qualités humaines formidables. Donc j'ai envie de les montrer, ces qualités humaines. Et c'est une des raisons pour lesquelles peut-être que, effectivement, ça semble être un côté ethnologique, je dirais. J'aurais pas cette prétention, mais c'est vrai qu'il y a un côté, en tout cas, de voyeur plutôt gentil, enfin, voyeur positif, je dirais. Mais effectivement, je les regarde vivre et je suis content de voir que leur profession, c'est aussi leur vie, et donc les deux sont en général se mélangent très fortement.
Alors, ce qui apparaît également, c'est le fait qu'ils ont l'air terriblement sympathiques, en règle générale, on a vraiment envie de les connaître, et surtout cette simplicité chez eux, cette façon d'être, oui c'est vrai, ils t'accueillent, et ils n'ont pas peur de la caméra, ils n'ont pas peur de se découvrir. La simplicité qui m'a impressionnée.
Ça, c'est une chose que je recherche, évidemment. En fait, ça représente pas mal d'expérience professionnelle, parce qu'avant de faire ce métier de réaliser des films documentaires, j'étais portraitiste pour des magazines, et donc je photographiais des gens, et il n'était évidemment pas question de rater les photos. Et donc, il y avait toujours un côté voyeur, bien sûr, mais aussi un côté d'essayer de percevoir ce qu'étaient ces personnes le plus rapidement possible, pour me mettre de leur côté, d'une certaine manière, ou les faire réagir sur ce que je ressentais le plus profond en eux. Mais bon, c'est un peu... Là, j'exagère peut-être un peu, parce qu'en quelques minutes, on a beaucoup de mal à faire ça. Mais c'est ça que j'essayais de faire, et de les faire oublier, finalement, que, bon, il y a une machine devant eux qui va les immobiliser. Parce qu'en photographie, quand on fait une photo, les gens restent après immobiles en deux dimensions, et on peut regarder la photo ad vitam aeternam. On peut rester 5 heures devant la même image, même. Et là, on voit tous les défauts. Alors, les gens n'aiment pas se faire photographier. Avec la vidéo, c'est assez différent, parce que les gens sont en mouvement et donc ils ont moins cette impression d'être figés. Mais effectivement, il y en a quelques-uns qui ont un peu de mal au début, mais on arrive très vite. Si on comprend bien quel est leur intérêt, quelle est leur vie, comment ils fonctionnent, finalement, on leur pose des bonnes questions, on suit leur parcours et on arrive assez vite à leur faire oublier qu'en face d'eux, ils ont une machine qui enregistre ce qu'ils disent avec des appareils d'éclairage de temps en temps, un micro évidemment, ils finissent par l'oublier. Et j'ajouterais une chose, c'est que, en particulier les Américains, je ne sais pas si c'est leur éducation qui le fait, mais les Américains ont une espèce de facilité à communiquer avec vous ou devant une caméra qu'on retrouve très difficilement en Europe. Je trouve que les gens sont beaucoup moins naturels, ils ont beaucoup plus de mal. J'ai de la chance parce qu'avec ceux que j'ai fait jusqu'à présent, ils ont été très... plutôt bon. Mais c'est vrai que j'ai constaté que souvent, les gens, il y a une caméra, ça les dérange. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont aucun problème ni pour parler, ni pour regarder la personne qui les interviewe. Ils sont très à l'aise.
Sur le plan technique, comment cela s'est passé? Tu étais seul, tu étais avec un technicien. Comment tu t'es débrouillé pour l'image, le son et autres?
Avec la méthode que j'ai choisie, qui est celle donc, de l'immersion totale, je suis seul. Donc ça pose un problème technique, évidemment, puisque je dois à la fois servir la caméra et servir l'enregistrement du son. Mais donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible en matière de processus, si on peut dire. Et j'ai choisi du matériel qui pouvait correspondre à cette façon de travailler. Donc j'ai des caméras haute définition, mais légères. J'en utilise plusieurs, j'en utilise deux en fait. D'ailleurs, c'est même un peu plus compliqué que ça. J'utilise une caméra standard pour l'interview, mais je mets à côté un appareil photo ou vidéo qui est maintenant très connu et très utilisé, qui est le fameux Canon 5D. Et cet appareil, je le mets à un angle différent, et à une focale différente, ce qui me permet de lors des interviews de monter plus facilement en post-production. Et pour le son, c'est compliqué. C'est compliqué, mais disons que comme ça fait partie du sujet, je me suis permis quelques libertés, surtout dans les films les plus récents. J'ai carrément mis des micros de studio pour les interviews, des micros de studio qui restent dans le champ. Parce qu'en fait, évidemment, normalement, quand on tourne un documentaire ou dans une fiction, il n'est pas question de voir le micro, puisqu'on sortirait immédiatement de l'univers dans lequel sont les gens. Mais là, ils sont dans cet univers. Donc, je n'hésite pas à montrer des énormes microphones de studio. Et du coup, j'ai un son qui est particulier par rapport au son qu'on a habituellement dans les documentaires. Parce qu'évidemment, ces microphones-là ne donnent pas du tout le même effet de voix que peuvent donner même les meilleurs micros de prise de son classique. Autre raison qui me facilite les choses, c'est évidemment que travaillant dans un univers d'ingénieur du son, souvent les pièces sont prévues pour l'enregistrement, et ça c'est un vrai cadeau qu'ils me font, ça me facilite beaucoup les choses.
Dans les derniers DVD que tu as fait, quels ont été les personnages les plus attachants?
Alors là, je peux pas dire. Je peux dire qu'ils sont tous très attachants, ils ont tous un caractère très fort, ils ont tous des histoires extraordinaires à me raconter, ou alors des vies incroyables. Par exemple, Dave Hill, qui est le concepteur et le fondateur de la société Cranesong, qui fabrique des compresseurs, des préamplificateurs de microphones de très très haut de gamme qu'on retrouve dans tous les grands studios. Alors Dave Hill, il habite la ville de son enfance, qui est une ville qui s'appelle Superior, qui est à côté de la ville de Duluth, qui est au bord du lac Supérieur, et c'est une ville complètement sinistrée, où il ne se passe pratiquement plus rien, il n'y a plus d'activité économique. Et lui, il a réussi à rester là, à monter cette entreprise qui est assez florissante, et à donner du travail à 8 personnes. Et moi, je lui tire mon chapeau, parce que ce n'est pas facile d'arriver à gérer une situation pareille. Et lui, il est très content, et il me dit « Mais ça, c'est mon pays, je suis né là, et j'adore habiter là. » Et malgré les difficultés, parce qu'en hiver, il fait très facilement moins 20, et donc lui, qui est un écologiste avant l'heure, ne conduit pas volontairement, il n'a pas de voiture. Il marche, donc il fait tout à pied, hiver comme été. Et donc, quand je tournais à Superior dans son studio qu'il a entièrement construit lui-même. On sortait pour déjeuner. Alors, horaire à l'américaine, le déjeuner là-bas, c'est plutôt 11h du matin que midi et demi, 1h. Donc, on partait à 11h et trois quarts d'heure de marche pour aller acheter un hamburger. On s'arrêtait pour manger ce hamburger une demi-heure et après encore trois quarts d'heure de marche, ce qui était finalement très bien pour le digérer. J'ai d'autres anecdotes, évidemment, qui sont intéressantes avec David Bock, qui est un fabricant de micros très, très renommé. Alors lui, c'est un fanatique de cuisine gastronomique. Et donc, il s'est mis à faire de la cuisine. Mais alors, comme un maniaque de micros, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que sa cuisine est vraiment gastronomique, comme dans un restaurant 3 étoiles. D'ailleurs, il a appris chez un chef qui a, de Los Angeles, qui a 2 étoiles au Michelin. Il a pris des cours chez ce chef. Et donc, quand on mange quelque chose chez lui, c'est incroyable. Et je l'ai suivi dans le film que j'ai tourné. Je voulais mettre ça en parallèle avec la précision de la fabrication des micros, avec son soin extraordinaire dans la fabrication de la cuisine. Et donc, je l'ai suivi au marché qui s'appelle Hollywood Farmers Market, qui est une espèce de marché de produits naturels, mais très, très haut de gamme. Bon, souvent, c'est des stars qui vont là faire leurs courses. C'est assez rigolo de les voir le dimanche matin en tenue de jogging acheter leurs poissons. Et donc, j'ai suivi David Bock et sa femme, on a fait les courses ensemble. Et donc, il s'arrête, il va voir le marchand de poissons, après, il va voir son boucher, il achète ses légumes. Enfin, c'est assez rigolo parce qu'il a une véritable passion pour ça. Et ensuite, je l'ai filmé en train de cuisiner et j'ai mis en parallèle cette précision de cuisinier gastronome. Avec la fabrication des micros, où on voit aussi à quel point tout se fait avec des gants, et tout se fait avec des pinces ou des loupes, etc. Et la précision avec laquelle il doit travailler pour assembler les microphones, parce que la plupart des microphones qui sortent de chez David Bock sont assemblés à la main, soit par lui, soit par un atelier extérieur, mais lui revérifie tout derrière. Donc c'est assez impressionnant, et je voulais montrer ça en parallèle avec ses talents de cuisinier.
Effectivement, à la vision de ces prises de vue sur ce fameux marché de Hollywood, on a l'impression pratiquement de se retrouver dans une petite ville de province française. Et ça nous surprend, parce qu'on n'a pas l'image de Los Angeles et de Hollywood comme ça.
Los Angeles est énorme et donc c'est assez surprenant parce qu'il y a énormément de quartiers qui sont en fait des petits villages, des villages étendus, je dirais. Parce qu'effectivement, on peut rien faire à pied à Los Angeles et Hollywood est un des villages de Los Angeles. Et il y a ce marché qui se trouve vraiment en plein centre d'Hollywood. C'est juste à côté du Grauman Chinese Theater, qui est le fameux théâtre où se passent les Oscars, à côté du Kodak Theater. Tout ça, c'est à 5 minutes à pied. Et ce marché, effectivement, c'est très impressionnant. Et ce sont tous des fermiers locaux qui viennent là le dimanche matin. Et d'ailleurs, quand on est là dans ce marché, au fond, au bout de la rue, on voit la montagne. Parce qu'il ne faut pas oublier que Los Angeles est entouré de collines et derrière les collines de montagnes. Et ça se voit au bout de la rue.
Oui, c'est ce que nous disait d'ailleurs un des musiciens de Daft Punk qui habite là-bas, qui nous disait que lui, il se sentait vraiment très, très bien là-bas. Et pour lui, c'était hyper agréable de vivre cette vie très, très cool, très calme, à 5 minutes de son boulot, des studios d'Hollywood et autres.
Alors moi, je ne sais pas si j'aimerais vivre là-bas, mais il est un fait que c'est très cool en extérieur. C'est-à-dire que le rythme est lent, mais la capacité de travail est énorme. Et c'est comme une énorme machine, assez démultipliée, mais une fois qu'elle est en marche, on ne peut pas l'arrêter. C'est l'impression qu'on a à Los Angeles. C'est-à-dire que c'est lent, mais ça fonctionne. Et puis, les gens, je pense que c'est une attitude. Les gens, effectivement, sont beaucoup plus détendus qu'à Paris ou évidemment qu'à New York.
Combien de DVD portent sur des constructeurs et des ingénieurs du son de la partie ouest des États-Unis, donc de Los Angeles et des environs ?
J'ai fait 4 films sur des constructeurs qui se trouvent dans l'ouest des États-Unis. J'en ai fait un pour l'instant qui se trouve au contraire sur la côte est, et un, celui dont je parlais tout à l'heure, de Crane Song, qui se trouve dans le Middle West, mais dans le Upper Middle West, c'est-à-dire au bord du lac supérieur, qui est pratiquement Presque au Canada, enfin. C'est très, très au nord et c'est très au centre.
Est-ce qu'ils reflètent chacun d'eux le caractère de leur région, enfin de leur contrée?
Absolument, oui. C'est même très étonnant. Par exemple, Dave Amos, qui est le concepteur avec son collègue Greg Galtieri de Anamode. Anamode, ce sont des appareils très étranges. Ce sont des appareils analogiques qui émulent des anciens appareils, mais avec une électronique ultra moderne. Mais ce n'est pas numérique. Donc, il innove complètement dans ce domaine. C'est complètement ésotérique ce qu'il fait. Mais ça marche très, très bien. Et lui, alors lui, c'est un Superman de la côte Est. Il faut le suivre. J'ai habité chez lui, donc pour tourner le film, et on n'arrête pas une minute. On court littéralement. On prend sa voiture toutes les 5 minutes pour aller faire une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. On va partout, et c'est passionnant. Ça n'a rien à voir avec la Californie. Le rythme est, je dirais, en termes de vitesse, multiplié par 2. Et alors, en plus, Dave Amos est un personnage multitalent, qui est avant tout un musicien. Donc, c'est un organiste. Il joue de l'orgue Hammond B3, ou B2, pardon. Mais il a une collection de claviers absolument incroyable. Il y en a partout dans son garage. Il peut même plus les compter. Et il a notamment des ondes Martenot, ce qui est quand même très rare aux États-Unis. Et il adore cet instrument parce que, évidemment, c'est un objet magnifique. Il a toutes sortes de choses. Alors, donc, il est musicien. Je reviens à ce que je disais. Il est musicien. C'est lui qui a fait la musique du film. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé le film. Je l'ai filmé dans un basement, c'est-à-dire une cave de la maison du batteur avec lequel il travaille, qui est un capharnaüm extraordinaire. Et donc, le fait que ça soit un capharnaüm extraordinaire, ça fait un studio qui marche très bien parce que ça absorbe parfaitement, ça évite les résonances. Il m'a dit, on va faire la musique du film et il a passé une après-midi à composer avec son copain la musique du film qu'on retrouve... de plus en plus élaboré. Au début, on le voit jouer avec son clavier. À la fin, évidemment, c'est mixé. Il y a des guitares, il y a toutes sortes de choses qui se rajoutent. Et donc Dave, pour en revenir à ça, est un personnage incroyable. Il est aussi DJ dans une radio, je dirais une radio alternative, très très branchée dans le New Jersey, qui est juste en face de New York, c'est juste de l'autre côté de la Hudson River. Et c'est une espèce de radio mythique, qui est une radio privée, mais qui n'a pas de publicité, qui est entièrement subventionnée par des donations. Et donc il passe du rock alternatif, du rock des années 60, et lui, alors donc il est DJ là, et il passe ses vieux 45 tours de son adolescence. Et il arrive avec des boîtes de 45 tours et il passe ses disques. C'est extraordinaire de le voir officier devant le micro du DJ et passer ses vieilleries, parce que beaucoup de gens considèrent que c'est des vieilleries, mais c'est de la très très bonne musique.
Que pensent-ils, eux, du tournant que vit actuellement le son ?
Ils sont en plein dedans. Je dirais que c'est eux qui font le tournant, d'une certaine manière. Par exemple, Dave Amos et Greg Galtieri, alors, ils viennent tous les deux d'un milieu de ils sont amateurs de vintage, de vieux appareils. Donc, ils ont des microphones à lampe, des vieilles consoles, etc. Ils restaurent. Dave Amos, c'est un spécialiste de la remise en état de vieilles consoles, notamment Helios, dont une qu'il a remise en état pour Lenny Kravitz, qui était dans son garage. Je l'ai filmé en train de réparer cette console, plutôt de la restaurer, mais il n'était pas tout seul. Hein. Lui, c'était l'ingénieur. Il avait deux personnes qui travaillaient pour lui. Et donc, c'est une restauration comme ça qui coûte... une bonne centaine de milliers de dollars. Et donc c'était assez impressionnant. Et il s'est mis à faire des émulations de vieux appareils avec une méthode que personne n'a utilisée auparavant. Parce qu'en fait, il avait commencé avec des plugins, c'est-à-dire des petits logiciels qu'on rajoute au logiciel de montage ou de mixage son pour obtenir des effets. Et donc, il y a une quinzaine d'années, il avait commencé, ça a été un des tout premiers, à imiter, à retrouver le son des vieux appareils que tout le monde recherche. Tout le monde veut avoir le son des Beatles, le son d'Elvis, voilà. Et donc là, il avait retrouvé par algorithme mathématique, parce que c'est un ingénieur en électronique, il avait retrouvé par algorithme tous les caractéristiques de distorsion de ces vieux appareils, et il en avait fait des plugins. Mais il a vite déchanté parce que les plugins étaient très piratés, il le raconte dans le film, et du coup, ils ont bossé comme des fous et ça rapportait pas énormément. Mais il a eu la chance que DigiDesign, qui est maintenant Avid, a eu besoin de ces plugins pour augmenter l'offre de logiciels qu'ils avaient. Et donc, ces logiciels ont été rachetés par Pro Tools. Donc, lui, ça lui a permis d'être, comme il dit maintenant, en retraite. Et comme évidemment il est jeune et qu'il s'ennuyait, il a décidé de réutiliser le même genre d'algorithme pour faire des appareils, mais en analogique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des plugins qu'on peut pirater, maintenant, lui, il fait ça dans des boîtes et on rentre en analogique dans la boîte, on ressort en analogique, mais il n'y a rien de numérique à l'intérieur. Il n'y a ni convertisseur d'entrée, ni convertisseur de sortie. Donc, c'est très habile. Ça marche très bien. Il a fait ce qu'on appelle un émulateur de bande de bande. C'est-à-dire, en fait, il a retrouvé l'effet des bandes magnétiques, des enregistreurs à bandes magnétiques qui ont évidemment disparu pratiquement partout dans les studios. Donc, dans une petite boîte, on peut imiter un Studer, un MCI, enfin tous les appareils, les enregistreurs multipistes de studio mythiques, eh bien lui, il peut le faire dans une petite boîte. Il suffit de changer la carte et on passe d'un Studer à un 3M ou à un Ampex. Et on peut aussi passer de tel type de bande à tel type de l'autre en changeant la carte. Et il y a un bouton devant qui vous permet de changer. Donc c'est assez astucieux et ça marche très bien.
Les modes de vie, on en a parlé. Il y en a qui ont l'air très près de ce que je pourrais appeler les écolos, les écologistes. Il y en a qui trempent dans l'ambiance new-yorkaise à mort. Est-ce que ça se ressent dans leurs recherches ou dans leur façon de voir les choses ?
Je pense que oui. Par exemple, Dave Hill, lui, c'est un écologiste, un passionné de la nature. Il fait tous les jours une marche de 2 heures dans la nature. Il est photographe amateur, il photographie des oiseaux dans la nature. Et ce qui est amusant, c'est que ces appareils ont des plaques frontales métalliques avec des boutons verts. Donc, c'est délibéré. Et chacun de ces appareils a un nom d'oiseau, par exemple, aigrette, ibis, etc., flamingo. Et le nom de son entreprise, c'est Crane Song, donc le bruit de la grue. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est ça, c'est aussi une anecdote assez drôle, c'est que ça ne vient pas du tout de la nature, le bruit de la grue. On s'imagine que c'est le chant de l'oiseau. Mais en fait, c'est le bruit des grues métalliques. Parce qu'à un moment, il a fait un documentaire sur un pont qui traverse la rivière entre Superior et Duluth. Et ce pont a été restauré. Et lui a tourné un film sur cette restauration. Il s'occupait du son. Et constamment, il y avait le bruit des grues. Et le grutier, les opérateurs de grue, leur avaient expliqué qu'en fonction du son de la grue, ils savaient si la grue était trop chargée, si la flèche de la grue était bien orientée, etc. Et donc, c'est ça qui lui a donné l'idée du nom, ce que je trouve formidable. Mais après, comme il est très écologiste, sans être un militant, hein, il baigne dedans, il s'est dit, mais finalement, c'est beaucoup plus beau si c'est un nom d'oiseau plutôt qu'un nom d'une grue, d'une machine. Et donc, progressivement, c'est passé un nom du chant d'oiseau, et on retrouve chaque machine a un nom d'oiseau, ce que je trouve très amusant. Donc voilà un exemple. Je dirais que Little Labs, par exemple, c'est très californien parce que c'est des machines qui sont prévues pour les studios de Los Angeles, quoi. C'est vraiment ça. À l'écoute, le gars, il est à l'écoute des ingénieurs. Je sais pas, c'est cette manière très cool de travailler dont on parlait tout à l'heure qui fait que, ah ben oui, tu veux telle machine, je vais t'en étudier une, on va voir ce que ça donne. Et voilà comment ils travaillent. Et Manley, par exemple, alors ça aussi, c'est des machines, bien que ça a été au départ un Anglais qui avait conçu certaines de ces machines, quand même le son du tube, c'est très laid back, très, très californien, effectivement, je dirais. Parce qu'il y a un autre son à tube, qui est le son des appareils de Greg Galtieri, le son pendulum, qui est donc l'associé de Dave Amos avec, pour Anamode. Alors lui, il fait des appareils à tubes qui n'ont absolument pas le même son que les appareils Manley, qui est un son beaucoup plus, je dirais, plus haute fidélité, plus moins coloré, les deux étant évidemment volontaires, hein, les deux entreprises ayant choisi délibérément une sorte de une signature sonore.
Est-ce que ce sont des gens qui s'intéressent au son d'ailleurs, je veux dire au son de ce qui se passe en Europe ou au son d'autres pays, ou alors ils sont essentiellement tournés vers les États-Unis?
Je pense qu'ils sont essentiellement tournés vers les États-Unis. Non, je dirais qu'ils sont quand même très souvent fortement influencés par les électroniques anglaises des années 60, qui ont équipé tous les grands studios et qui ont inondé, les Anglais à l'époque avaient inondé les studios avec des marques comme Neve ou Helios. Je pense que ces gens sont assez inspiré par ces appareils, mais il y a aussi toute une école américaine, genre APIA, Universal Audio, qui sont des vieilles marques. Non, je pense qu'ils sont essentiellement tournés vers leur production, bien que en ce qui concerne les microphones, par exemple, on pourrait dire que effectivement David Bock, qui construit des microphones, donc qui est aussi ce cuisinier gastronome, lui est très très inspiré par les microphones allemands des années 50, les AKG Elam 251 ou les Neumann 47, les Neumann M50. Lui, il fait des appareils, mais il ne le cache même pas. Son but, c'est d'arriver à obtenir le même genre de qualité avec une fiabilité meilleure, puisque ces appareils sont modernes. Donc il choisit des composants actuel, plutôt que de choisir de restituer exactement la topologie des appareils anciens, des microphones dits vintage, qui évidemment devient de plus en plus complexe parce qu'on ne trouve plus les pièces.
Tous ces gens, j'ai été assez surprise au niveau des images. Il y a bien sûr des grands studios, il y a également des petits studios d'enregistrement dans les mêmes capacités que celui dans lequel nous sommes. Et j'étais étonnée de voir les ressemblances qu'il pouvait y avoir dans le studio Labrou avec les méthodes de rangement des micros et autres, et ces méthodes américaines qui sont assez, enfin je veux dire en France, assez exceptionnelles, parce qu'on a l'habitude de voir ces grands studios très froids, un peu déserts, et de voir eux avec une multitude d'instruments ou de matériel.
Oui, absolument. Oui, je dirais que le studio Labrou est très américain dans la façon dont il est installé, beaucoup plus que les grands studios français qui sont toujours hyper clean, très modernes, toujours la dernière technologie. C'est très français, ça, mais c'est pas mal, hein, c'est une qualité. Mais c'est vrai que les Américains, ils sont beaucoup plus traditionnalistes que les Français. Donc, dans leur studio, on retrouve des machines des années 50. Ils sont ravis de les utiliser. Elles sont mélangées avec les choses de la dernière technologie. Tout est mélangé. Et ils sont beaucoup plus fouillis que les Français, les Américains, dans leur manière de travailler. Beaucoup plus pragmatiques. Et je dirais qu'un studio américain, en général, c'est un beau fouillis. Il y a des tasses de café à côté des claviers, d'ordinateurs, des vieux conteneurs de nourriture chinoise. Enfin, c'est assez, assez bizarre, tout ça mélangé. Mais ils retrouvent toujours tout là où il faut. Tout est toujours quand même... on sait où sont les choses. Hein. C'est une sorte de fouillis de vie, mais pas de fonctionnement. C'est quand même très, très professionnel.
J'étais étonnée de la façon dont ils faisaient très attention à leur micro. On les voyait les mettre dans des petits sacs plastiques et tout était... Là, contrairement, moi, je trouve que c'était quand même bien rangé, même si ça paraissait fouillis, c'était... Effectivement, il y avait un certain ordre dans le fouillis.
Oui, il y a un certain ordre dans le fouillis, mais surtout, oui, ils sont très, très soigneux des micros anciens, parce que justement, ils les respectent complètement. Donc, effectivement, ils sont entourés de petits sacs plastiques avec du silica gel à l'intérieur, dans des boîtes, etc. Tout est parfaitement... Oui, tout est bien ordonné, mais ça a l'air un peu fouillis, un peu vieux, un peu vieillot, et c'est le côté très sympathique qu'on retrouve là-bas, et qui est d'ailleurs effectivement très étonnant pour un œil français, de voir une manière de travailler aussi décontracté, je dirais.
Alors justement, quelle a été leur impression d'être interviewés, filmés, d'avoir une collection qui leur a été principalement réservée et vue par un œil français ?
Eh bien ça, je dirais que c'est encore une qualité des Américains. Pour eux, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait les choses, où on est dedans, Il n'y a pas de problème français, américain, anglais, etc. Toutes ces histoires-là disparaissent complètement quand on est en contact avec eux. On est là, on fait les choses. Que je sois français, allemand, japonais, je crois que ça n'aurait fait aucune différence. Je pense qu'ils sont contents de montrer ce qu'ils font et ils ouvrent leurs portes très facilement et ils sont très chaleureux. Et c'est du coup très facile de travailler avec eux.
Alors une question que je me pose qui porte sur la technique que tu peux utiliser au niveau de la conservation des documents finalement que tu as et que tu construis là-bas. Tu es chez l'habitant, comment fais-tu pour dérusher finalement tes prises de la journée? Est-ce que tu as un temps à toi ou ils te laissent pas tranquille? Enfin, entre guillemets.
Eh bien, c'est un temps que je prends. Effectivement, ça prend du temps. C'est une excellente question. Ça prend du temps. C'est-à-dire que quand je reviens, quand je finis ma journée de tournage, je m'isole. Je leur dis, bon, voilà, il me faut une heure. Et je filme tout sur des cartes numériques, des cartes P2. Et des cartes compact flash pour le son. Donc j'enregistre tout sur des cartes, je transvase tout, si on peut dire transvaser, sur un disque dur. Donc ça prend un peu de temps, parce que chaque carte c'est une heure de film, ou une demi-heure, trois quarts d'heure de film. Oui, c'est une heure de film, donc c'est long. Ça, c'est un peu plus rapide que le temps réel, mais quand même il faut le temps de vider la carte. Et ensuite je retranscris ce qui est le document original que je garde sur un des disques durs, sur un deuxième disque dur, mais là, il est transcodé et je peux le visionner sur un logiciel de montage. Et donc, je déroge très, très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, je vérifie que j'ai bien les images dont j'avais besoin et je resynchronise le son parce que tout le son que je fais est enregistré sur un enregistreur séparé 8 pistes qui me permet d'utiliser plusieurs microphones, qui me permet aussi de me brancher éventuellement sur la console du studio. Quand je fais par exemple un film et qu'ils font venir des musiciens exprès pour le film, et donc je laisse l'ingénieur du son, par exemple Dave Hill, il a fait venir très gentiment un groupe qui était composé d'un violoncelliste et d'une chanteuse. Donc je l'ai laissé, c'est lui qui installait les micros, c'est lui qui faisait le son, et moi je reprenais le son qui sortait de sa console, enfin c'est pas vraiment une console parce que c'est son équipement spécial, dans mon petit enregistreur. Et j'avais en plus un micro HF sur Dave Hill qui passait du studio à la cabine d'enregistrement et un micro dans la cabine qui me permettait d'avoir le son d'ambiance dans la cabine. Donc j'avais pas mal de pistes et tout ça est synchronisé avec la caméra par un timecode. Et ensuite j'ai un logiciel qui me permet de retrouver pour chaque plan tourné le son qui correspond. Donc c'est assez fastidieux, mais ça marche plutôt bien.
La question que je me pose également, c'est parce que je suis parfois un peu circonspecte par rapport aux disques durs et les accidents qu'il peut y avoir. Est-ce que tu as eu idée de laisser ça sur un serveur, de laisser tous tes rushs sur un serveur au cas où ça se passe mal au niveau des disques durs?
Non, pas pour l'instant. J'estime qu'avec deux disques durs, ça serait quand même extraordinaire que les deux tombent en panne pendant le tournage. Parce que si un des deux disques durs tombe en panne, j'ai quand même tous les plans, tout le son sur un des deux disques durs. Donc, j'ai pas tellement à m'inquiéter.
Non, je pense par exemple dans des problèmes d'aéroport. On dit toujours que par exemple les rayons X peuvent détruire des bandes et autres.
Bah non, mon expérience est plutôt positive. Je toucherais du bois s'il y en avait. Oui, il y en a.
Je ne vais pas te porter malheur.
Non, je n'ai pas vraiment de problème. J'ai pas vraiment eu de problème. Non, deux disques durs, c'est quand même. On est quand même plutôt dans la sécurité, là, je veux dire. Bon, c'est sûr que ça serait mieux d'en avoir un troisième ou de tout envoyer sur un serveur, mais là, bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Ça viendra peut-être.
Quels sont les projets dans le futur ?
J'en ai beaucoup, pour l'instant. J'ai plusieurs films qui sont déjà en cours de fabrication. Disons que j'ai déjà 7 films qui sont disponibles sur le site. Ceux-là sont terminés, mixés et tout. Cette année, je pense que je vais en tourner au minimum 3, peut-être 4. J'en ai un que je tourne sur une entreprise française. Alors là, je tourne quelques films sur des entreprises françaises que je considère comme vraiment en pointe. Donc une sur une entreprise française qui s'appelle Devialet, qui fabrique des électroniques de très 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 haut niveau, plutôt audiophiles, mais qui pourraient servir aussi dans des studios, qui sont des amplificateurs, mais alors vraiment d'un niveau extraordinaire, qui comprennent évidemment un convertisseur à l'entrée, et qui sont des appareils, je dirais, de référence. Donc là, j'ai commencé les tournages avec eux. Je fais un deuxième film sur Clinger Favre, parce qu'il y a des activités qu'il développe que je n'avais pas montré dans le film précédent, notamment l'acoustique. Et donc là, j'ai commencé des tournages depuis l'été dernier. Je fais un troisième film sur une entreprise française qui s'appelle Flux, qui fabrique des plugins de très très haut niveau pour les studios d'enregistrement, pour la musique, pour le surround, pour le cinéma. Pour le son
oui,
au cinéma.
On en avait parlé avec Cyril Holtz dernièrement.
Voilà, donc ça c'est une entreprise qui est très en pointe. Mm-hmm. Et Gaël Martinet, qui est donc le fondateur et le développeur de cette entreprise, est extrêmement brillant, donc je pense que ça va être passionnant. Et je fais un quatrième film, là je pars aux États-Unis en mai, pour tourner un film sur un monsieur qui s'appelle Fern, qui fabrique des préamplificateurs et des compresseurs, donc de microphones à tube, aussi de très très haut niveau. Et là c'est un personnage que Dave m'a présenté et qui m'a l'air extraordinairement sympathique. Et donc je me réjouis à l'avance d'aller le retrouver là-bas chez lui, où il va m'emmener avec son avion, voir ses fournisseurs, voir... le paysage du coin qui est en Pennsylvanie.
Très bien, très bien. Alain, comment fait-on pour se procurer vos DVD ?
C'est très simple, on va sur le site de Soundstrips, qui est soundstrips.com, et sur chaque page, il y a un film avec un extrait qui est d'ailleurs sur YouTube aussi, qu'on peut voir, donc on peut voir ce que font ces gens et on peut commander le film directement et il est envoyé dans les deux jours et voilà. Et il y a d'autres projets qui seront streaming et distribution à des chaînes de télévision, ça c'est en cours, mais bon c'est en cours, donc je peux pas vraiment en dire plus pour le moment, mais ça c'est en train de venir.
Eh bien, bonne suite pour tous ces projets, beaucoup de voyages en perspective.
Merci beaucoup.
Et beaucoup de DVD également.
Eh bien, merci.
Merci Alain d'être venu. Nous avions ici Alain Le Kim pour le label Soundstrips.
Merci, au revoir.
Autre radio, autre culture, au revoir. Autre radio, autre culture.